Shabbat shalom, mes très chers amis, et Purim Sameach, Medaber Israël Chaviv Miranana. On est ce Shabbat, Shabbat Vayikra, et Motzé Shabbat, on fête Purim. Quelques mots sur la paracha qui se rapporte aussi à Purim. Vayikra, c'est un nouveau Sefer. On ouvre une nouvelle manière d'aborder la Avodat Hashem, la manière dont on doit servir le Créateur. Ici, on vient et on sacrifie, littéralement, généralement, c'est traduit par offrande, une partie de nos biens. Les Chachamim expliquent qu'un homme est à considérer de la manière suivante. Il a une âme, une neshama, une vitalité. Cette vitalité, naturellement, va définir ses aspirations, ses goûts, ses plaisirs, son caractère, évidemment, et même sa forme, forme physique. Il va être lancé dans le monde et il va disposer des moyens de ses aspirations selon les modalités de son caractère. Parmi les moyens qu'il a, il a le corps, en tout premier lieu, qui habille l'âme, puis il a ses habits, qui habillent le corps, puis il a ses biens matériels, qui habillent les habits, si je puis dire, qui sont ses moyens à lui d'accéder à la satisfaction, d'accéder à ses aspirations. Le Sefer Vayikra nous explique quelles sont les offrandes, ou bien les sacrifices que l'on doit amener dans le Beit HaMikdash, ou bien à l'époque, c'est dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Pourquoi fallait-il offrir de notre matérialité à Hachem? Quand on était propriétaire de taureaux, d'agneaux, de colombes, mais on était propriétaire aussi de vin et d'eau, et on offrait naturellement tout cela sur l'autel dans le Beit HaMikdash. À l'intérieur, il y avait les encens aussi. Sous plusieurs formes, on offre notre matérialité à Hachem. Deux questions se posent. À quoi ça sert? Puisque Hachem n'a pas besoin de ça, c'est lui qui a créé. Il a créé aussi bien ce qui provoque une libation que les animaux que l'on offre au Beit HaMikdash. A-t-il besoin qu'on les lui re-offre en quelque sorte? Et enfin, quel intérêt ça présente pour nous d'offrir quelque chose au Créateur? À la seconde question, on peut répondre facilement. Oui. Offrir au Créateur quelque chose, c'est en vérité accepter que lui est le maître de tous les lieux, de tous les endroits et de tout ce qui existe sur Terre. Est-ce que ce qu'il nous a donné en partage pour faire notre vie en quelque sorte, alors on restitue en mettant le cœur à nos offrandes, les offrandes étant en quelque sorte celles qui portent notre cœur vers Hachem, notre reconnaissance, nos regards vers Hachem. Et ça permet aussi de répondre à la seconde question, c'est très simple, c'est que, en vérité, nos regards ne sont pas naturellement portés vers Hachem. Nos regards sont portés horizontalement sur notre matérialité, comment assurer nos besoins quotidiens, comment s'assurer qu'on est satisfait dans l'existence, comment trouver son confort. Et donc, systématiquement, on vit sans regard vers le haut, tout en regard horizontal. On appelle nos médecins pour nous soigner, on appelle nos ingénieurs pour nos bâtisseurs, nos architectes pour construire. On appelle nos musiciens pour nous réjouir. Nous ne dédions pas beaucoup de notre souci et de notre regard vers le ciel. On dit que celui qui offre, il donne. Mais aussi, il reçoit. Il reçoit parce que s'il donne, c'est qu'il accepte qu'il y a une autre réalité que la sienne. Et en donnant, on ancre cette autre réalité. On ancre la présence divine sur terre. On vit avec elle. Et plus on offre, et plus on vit avec Hachem, et plus Hachem nous rend et s'inscrit à ce moment-là une relation réciproque entre le Créateur et les créatures. Et à ce moment-là, notre monde, le monde dans lequel on vit, n'a rien à voir avec le monde matérialiste et bas que nous avons tendance naturellement à vivre. On peut trouver, avec ce que je viens de dire, un rapport étroit avec la fête de Purim. Dans la Megillat Esther, il y a une expression concernant Esther Amalka, la reine, qui dit que Keter Malchut Berosha, la couronne de la royauté était sur sa tête. Évidemment que la couronne de la royauté est sur sa tête, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut définir qu'est-ce que c'est la royauté, qu'est-ce que c'est la couronne. La royauté s'exprime par les règles qui fonctionnent pour définir le monde concret dans lequel nous vivons. Aussi bien les règles que les scientifiques appellent les chokim, la pesanteur, le fonctionnement des forces hydrauliques et des forces d'une manière générale dans le monde, toutes ces forces-là sont gérées par des règles prévisibles que nous avons mis en équation et que nous apprécions et nous vivons avec elles et par elles. On a dompté l'énergie, on a de l'électricité, on a de la force hydraulique. Inutile de s'attarder plus là-dessus. Ceci s'appelle Malchut, la royauté divine. Le monde n'est pas en état d'absence de règles de fonctionnement. Il y a un fonctionnement. Mais on peut lui faire confiance, ce fonctionnement est pérenne. Si vous lâchez un poids, quasiment, nous avons toutes les chances qu'il tombe sur le sol. Donc on peut prévoir et s'appuyer sur ces réactions-là, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est qu'Eter al-Rosha ? La couronne est sur sa tête. La couronne exprime une autre idée. C'est que la présence du roi, quand on voit la couronne, c'est que le roi est là. Eh bien, les règles de fonctionnement qui ont été mises en manœuvre par le Créateur, on ne voit pas le Créateur, on ne voit que ceux qui l'ont mis comme règle, comme fonctionnement, comme force sur terre. Mais si vous voyez la couronne sur la tête du roi ou de la reine, alors ça veut dire qu'ici, il est patent que les règles de fonctionnement, ce qu'on appelle les lois naturelles, les lois de la nature, c'est lui qui les dirige. Lors de la fête de Pessah, au moment des 10 plaies d'Égypte, et même quand les ministres d'Israël ont traversé, ont vu la mer s'ouvrir devant eux, il n'y avait plus de lois naturelles. Elles ont été, en quelque sorte, mises entre parenthèses. Et on a cité une révolution. Oui, la grêle qui s'est abattue sur les Égyptiens, c'était de la glace et du feu en même temps. L'eau du Nil est devenue sang. L'obscurité était compacte et perceptible. Les lois de la nature n'avaient plus jeu dans le monde, ne marchaient plus, ne fonctionnaient plus. Évidemment que la présence divine était patente, mais c'est la nature qui n'existait plus. Les lois naturelles n'existaient plus. En quelque sorte, à Pessah, on avait Hachem, mais pas vraiment Elohim dans le sens où il fait fonctionner les lois. Elohim dans le sens qu'il est propriétaire et qu'il fait ce qu'il veut des lois et que les lois n'existent plus, elles sont suspendues. Ce n'est pas le cas à Pourim. Notre monde qui est un monde bas et grossier puisque on ne voit pas l'ensemble des données qui nous permettent de reconnaître qu'Hachem a créé le monde. On les voit pas. Donc dans ce monde-ci, qui a été créé à la suite du péché de Adam Harishon, où à ce moment-là, on a quitté le Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu nous a trouvé un Makom, un endroit dans lequel il y avait sa royauté de manière allusive, les règles de fonctionnement étaient là, mais sa présence n'était pas patente. Eh bien, à Purim, Akadosh Baruch Hu est rentré dans ces lois-là, dans le monde. Il les a, en quelque sorte, acceptées, il ne les a pas révolutionnées, mais il a montré de manière manifeste que c'est lui qui les dirigeait. Haman, qui est l'homme fort, qui a toutes les forces, lui, veut anéantir les Juifs. Il signe même, il fait signer un décret d'extermination. Et voici que c'est lui qui se fait, et ses troupes qui seront exterminées. Comme s'il avait mis sur terre les moyens permis, qui lui permettront de l'éliminer. Aucune allusion à la situation actuelle. Vena fochou, que je vous rends renverser la réalité et utiliser les kohotes qui étaient mises en œuvre, les forces qui étaient mises en œuvre pour nous exterminer, pour exterminer nos ennemis. De là, on voit ici aussi que la nature n'est qu'un déguisement, un habit, d'où le déguisement à Purim. Keter Malchut Berosha, la royauté était visible, ou à que je voudrais rentrer dans le sans briser, sans éliminer les règles de fonctionnement de notre monde, il les a employées pour les inverser et les amener là où il veut qu'elle arrive. Haman, l'exterminateur, était premier ministre et voulait tuer naturellement Mordechai, Hayoudi. Mordechai est devenu premier ministre. Haman voulait pendre à une poutre. Mordechai, c'est lui qui a été pendu à cette poutre. La nature des choses, le faible a dominé le fort et l'a tué. La nature des choses a conservé ses lois, mais Hachem est venu les inverser. Voilà, c'est ça pour lui. On voit que la couronne est sur la tête du roi, de la reine en l'occurrence. Et que ces lois de fonctionnement, sans avoir été brimées ni suspendues comme en Égypte, servent à montrer que c'est le roi qui dirige tout. Quand cette conscience, nous la construisons, qu'elle nous atteint, qu'elle nous remplit, qu'on en voit la vérité, alors à ce moment-là, on se met entre les mains du Créateur Et on peut tranquillement en déguster l'ivresse et laisser les choses se faire et voir comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde et l'amène là où il veut qu'on soit pour Im Sameach.